bordelbrefm.fr.
Une vague d'émotion.
Escale en Pays Landais.
Avec Chantal sur Bordelbre FM.
Bienvenue dans Escale en Pays Landais. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Colette Bataille, qui a été guide conférencier, qui est férue d'histoire locale et qui s'est penchée sur le sujet des femmes de métayer dans les Landes et plus particulièrement en Chalosse. Cette conférence a été d'ailleurs proposée au musée de la Chalosse.
bordelbrefm.fr.
Colette, j'ai une question à vous poser d'entrée. Pourquoi ce thème sur les femmes de métayer ?
Alors, tout d'abord, je ne suis pas du tout, je n'ai rien contre les hommes. Mais j'ai choisi le thème des femmes parce que autant on a des ouvrages, on a des articles concernant les métayers eux-mêmes et on oublie toujours les femmes. Et pourtant, on va voir au cours de cette conférence que le travail des femmes a été extraordinaire. Alors, je pense que c'est tout simplement pour essayer de leur rendre hommage.
Bon, on a le sujet qui est éclairci, ben alors on y va, on se lance.
Alors, on va d'abord, avant de commencer directement avec leur vie, on va essayer de voir un peu comment se présente la société rurale dans les années 1900 et dans les Landes. Alors, on va commencer par découvrir, on va dire, plusieurs strates de la société. Tout en haut de l'échelle, on va trouver les propriétaires non exploitants. C'est-à-dire que ce sont des hommes riches qui ont plusieurs métairies, plusieurs propriétés et qui vivent exclusivement de ce que leur rapportent ces propriétés. En général, ils ne vivent pas sur place, ils vivent en ville, dans des belles maisons bourgeoises. Juste en dessous d'eux, nous avons des propriétaires, mais des propriétaires exploitants, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une ou deux fermes, ils vivent d'une partie des revenus de ces fermes, mais qui souvent sont insuffisants, et pour cela, ils sont obligés d'exercer un autre métier à côté. Puis en dessous d'eux, on va retrouver les fermiers ou les métayers. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a une différence très importante entre les deux. Alors ces fermiers ou ces métayers, ils n'ont aucun bien personnel, ils n'ont aucune propriété. Ils dépendent exclusivement du grand propriétaire et ils vivent d'une partie des revenus de l'exploitation. Et juste encore en dessous, on va trouver les domestiques et des journaliers, qui eux sont des personnes qui vont se déplacer de maison en maison pour aller aider dans les travaux, de l'agriculture. Alors, si vous voulez, là nous avons un petit peu les strates de cette société. Et je viens de vous dire qu'il y avait les fermiers ou les métayers. Et là, c'est une chose qui est très importante, parce qu'il faut savoir que le statut est très différent. Si vous êtes fermier, vous êtes donc en fermage sur la propriété. Là, c'est très simple. Vous avez un contrat qui vous lie au propriétaire et qui fixe un loyer annuellement. Et lorsque le fermier a payé son loyer, il récupère après tous les biens de l'exploitation. Par contre, le métayage, c'est complètement différent. Là, il n'y a pas de contrat. C'est souvent oral. Il n'y a pas de loyer fixe obligatoire. Mais par contre, tous les biens de l'exploitation, tous les revenus de l'exploitation de la ferme sont à partager en deux avec le propriétaire, sont partagés par moitié. Et là, dans moitié, on va retrouver, si vous voulez, un peu la racine métayer, la racine moitié-moitié. Donc, on voit là que le statut de métayage est beaucoup moins intéressant que le statut de fermage. Et juste une petite remarque, le métayage est quelque chose, on va dire, qui est très bien implanté dans les Landes. En effet, des statistiques de l'époque nous disent qu'en 1900, dans la France entière, il n'y a que 7% de métayers, tout le reste étant des fermiers. Alors que dans les Landes, nous avons 77% de métayer. On voit donc que c'est quelque chose ici qui est ancré profondément dans cette société.
On a une explication sur cet ancrage ?
Je n'ai pas trouvé d'explication. D'après ce que on a pu retrouver, d'après les paroles qu'on a pu entendre, c'est une tradition qui se faisait. Les parents faisaient comme ça. Donc les enfants font comme ça. Les petits-enfants feront comme ça. Mais d'explication réelle, peut-être que c'était une évolution qui n'était pas encore arrivée jusque chez nous. On sait que pendant longtemps, les Landes étaient quand même un pays assez pauvre. Et peut-être que là, ils se contentaient de cette position. Alors, je voudrais aussi vous dire qu'au cours de cette conférence, tout ce que j'ai pu recueillir, ce sont des témoignages. C'est-à-dire que ce n'est pas une conférence qui est faite à partir d'un livre, ce sont des témoignages qui ont été récoltés par une personne de Souston, en l'occurrence Madame de Senneville, qui pendant des années a collecté des informations auprès de personnes âgées qui vivaient encore à cette époque-là, ou également elle a été très souvent dans les maisons de retraite. Et on a recueilli des témoignages vivants. Donc tout ce qui a été fait là, ou tout ce qui est raconté là, et ce sont des choses qui viennent de témoignages. Alors, en fonction peut-être du village, les témoignages peuvent donc légèrement être différents. Mais quand même, la base reste identique.
Pour les auditeurs, on peut situer au niveau des années
Alors moi, je me suis essentiellement basée sur les années 1900-1930. Donc vous voyez, on est vraiment dans une période assez précise. Alors, on a vu qu'il y avait une différence dans les strates de la société. Mais on va retrouver un petit peu ces différentes couches au travers de l'habitat. Et aujourd'hui encore, si vous vous promenez dans la campagne, on peut encore apercevoir des restes de cet habitat. Je vous ai dit que les propriétaires exploitants, les grands bourgeois, y vivaient souvent en ville. Mais on va avoir aussi les petits propriétaires exploitants qui, eux, vont avoir de très jolies maisons. Et aujourd'hui encore, ces maisons qui restent sont très prisées et elles sont très particulières. Ce sont des maisons qui comportent à peu près au moins 6 pièces, donc relativement grandes, mais qui ont une très jolie toiture. Elles ont une toiture que l'on appelle en queue d'aronde, c'est-à-dire une toiture à 3 pans. Et ces maisons, elles sont systématiquement précédées d'un auvent. Alors cet auvent, c'est un petit peu le trait d'union entre l'intérieur de la maison et l'extérieur. On peut y faire des petits travaux sous cet auvent, mais aussi, ce qui est intéressant, quand on reçoit quelqu'un, et si on n'a pas envie qu'il rentre dans la maison, on le reçoit sous l'auvent, et c'est très bien. On est tranquille. Pour ce qui est de la ferme, là aussi, on va voir une grosse différence avec le propriétaire précédent. Là, plus de belles toitures. C'est une toiture ordinaire. Plus d'auvent. C'est-à-dire que s'il pleut, ben, vous restez à l'extérieur. Et là, on voit aussi que ce sont des maisons qui sont beaucoup plus petites. Et là, c'est une remarque qui est très intéressante et vous verrez pourquoi dans quelques instants. Donc, la grande maison avec au moins 6 pièces, la petite métairie avec 3-4 pièces. Et si on s'approche un petit peu de cette métairie, on va voir que sous ce toit, eh bien, vont vivre plusieurs familles. On a souvent 3 générations réunies sous le même toit. Alors, pourquoi ? Ben, c'est très simple. C'est parce que l'habitat, à cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand on a un toit, eh ben, on s'en sert. Ensuite, quand il y a plusieurs générations, il va y avoir plusieurs bras pour travailler. Donc, ça nous permettra d'avoir un petit peu d'argent. Parce qu'à cette époque-là, l'argent, il ne coule pas à flot. Et ça sera aussi très pratique, parce que ce que l'on gagnera, ce que chacun gagnera, eh bien, on le mettra dans un pot commun. Et ça nous apportera là aussi, donc, un petit peu plus d'argent. Alors, maintenant, on est rentré dans la maison. Quand on rentre dans cette maison, on voit donc plusieurs générations. Mais il y a aussi quelque chose qui frappe. Si on écoute un peu parler, si on écoute les discussions, on va voir qu'il y a ce qu'ils appellent entre eux les femmes du dedans et les femmes du dehors.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah, voilà, c'est exactement la question que je me suis posée. Alors j'ai dit, il y en a qui doivent dormir dedans et les autres doivent dormir dehors.
Ou alors il y en a qui s'occupent du dedans et d'autres qui s'occupent dehors.
Eh bien voilà. Alors, comme on est quand même un peu gentil, les femmes du dedans, ce sont en général celles qui sont le plus âgées. On va dire qui vont faire des travaux un peu plus légers, si on peut appeler ça des travaux légers. C'est-à-dire que ces femmes, que l'on appelle aussi, en patois gascon, la daoun, la maîtresse. Bien que la femme du propriétaire, on l'appelle aussi la daoun, mais la position n'est pas la même. Donc cette personne la plus âgée, eh bien qu'est-ce qu'on va faire ? Elle va s'occuper de l'intérieur de la maison. Elle va commencer par s'occuper du jardin. Le jardin très important, parce que dans le jardin, dans le potager, eh bien on va cultiver ce qui va servir à nous nourrir. Elle va aussi s'occuper de la basse-cour, là encore, même objectif, avoir à manger. Elle va s'occuper de tout ce qui est ménage, de tout ce qui est raccommodage, de tout ce qui est tricot, de la petite lessive. Et là, je fais pareil, vous verrez tout à l'heure une grande différence entre petite et grande lessive. Elle va aussi s'occuper des enfants. Comme il y a 3 générations, souvent il y a des jeunes enfants, eh bien, c'est elle qui va s'en occuper. Elle aura aussi un privilège. C'est elle qui va aller au marché, et exclusivement elle. Elle va aller vendre eh bien, le petit peu de volaille qu'elle en trop, ou les légumes, ou des œufs ou autre, et elle va donc aller au marché. Une fois qu'elle a tout vendu, ou qu'elle a vendu le maximum, le peu d'argent qu'elle a récolté eh bien, va lui servir à aller faire quelques courses à l'épicier, c'est-à-dire aller acheter quelques produits qu'elle n'a pas sur sa ferme. Et certaines des personnes interrogées nous ont même dit qu'elle allait acheter un bout de tissu pour faire des tabliers, pour faire des vêtements. Et donc là, on voit que son utilité était quand même très importante, même si c'était la personne qui était un peu plus âgée. Et si en ayant fait toutes ses courses, il lui reste encore un petit peu de sous, eh bien, on mettra cet argent dans le pot commun. Et il revient aussi à ces femmes du dedans, eh bien, l'obligation de faire les repas. On vivait à cette époque-là presque exclusivement avec ce que l'on produisait sur la ferme. La viande de boucherie, c'était vraiment exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on mangeait à ce moment-là ? On faisait souvent 3 repas par jour, parce qu'on se levait très tôt le matin. Alors, il va y avoir la soupe, ça c'est l'indispensable. Alors, la soupe avec toutes sortes de légumes que l'on avait, les pommes de terre, les choux, les carottes, les haricots. On va aussi manger des œufs. Et on va aussi manger la viande de cochon, parce que souvent, dans la métairie, on va élever un cochon. Et donc là, on aura le jambon, on aura tous les produits, on aura les confits, on aura tous les produits du cochon.
Et oui, parce que dans le cochon, tout est bon, c'est bien connu.
Exactement. Et là, c'était le cas. Donc, vous voyez, c'était une vie bon, qui était très sobre, mais qui était la vie de l'époque. Alors aussi, quelquefois, de temps en temps, dans les repas, on rajoutait quelques sardines salées. Donc ça, c'est pareil, des sardines salées qu'on allait souvent acheter chez l'épicier quand on revenait d'aller faire le marché.
Du poulet, peut-être ?
Alors, du poulet, mais ce qu'il y avait, c'est que les poulets, on mangeait les poulets qui n'avaient pas pu être vendus au marché. Parce que c'était plus intéressant de vendre le poulet que de le manger. Mais enfin, quand même, de temps en temps, on mangeait du poulet. Et les œufs, c'était pareil, on mangeait des œufs quand il en restait de ce que l'on avait vendu au marché. Alors, nous voilà donc avec nos femmes du dedans. Mais nos femmes du dehors, qu'est-ce qu'elles font ?
Eh bien, Colette, si vous le voulez bien, nous verrons cela après une petite chanson que je vous propose d'écouter. C'est une chanson d'une forme traditionnelle, une chanson de neuf. Une chanson de neuf, c'est une chanson qui commence avec 9 objets au premier couplet et on diminue chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive à 1.
En général, dans ces chansons de neuf, il n'y a pas de quatre, quat en gascon, parce qu'il y a deux syllabes dans ce mot et que ça ne donnerait pas le bon nombre de pieds dans le vers qui serait chanté. La chanson en question est un collectage de Félix Arnaudin, Naoguyats Bolem Mahil, sur un arrangement de Yann Kosian. Ça parle au début de neuf garçons qui veulent marier une fille et donc huit qui ne l'auront pas. Dansons donc, dansons plus, dansons donc, faucheur de paille, dansons donc, dansons plus, dansons donc, faucheur de foin, nous dit le refrain. Et à la fin, bien sûr, il y en a un qui l'aura, ben, ça sera le dernier.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Uet guiats, pren marilla, que n'hi ha set, ne l'haurem pas. Uet guiats,
pren marilla, que n'hi ha set, ne l'haurem pas.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Seis guiats per en Maria, que n'hi ha cinc, ne l'hauran pas.
Seis guiats per en Maria, que n'hi ha cinc, ne l'hauran pas.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Tres guiats per en Maria, que n'hi ha dins, ne l'hauran pas.
Tres guiats per en Maria, que n'hi ha dins, ne l'hauran pas.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Un guiat que bon marillo que de segui que l'haurà.
Un guiat que bon marillo que de segui que l'haurà.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de paia.
Dansem d'un, dansem mei.
Dansem d'un, gaire de hei.
Escale au Pays Landais.
Avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Alors nous voilà donc avec nos femmes du dedans. Mais nos femmes du dehors, qu'est-ce qu'elles font ?
Alors il reste les jeunes.
Alors il reste les jeunes, il reste celles qui ont les bras les plus costauds. Et elles, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va les expédier dans les champs, travailler avec les hommes. Avec le père, avec le mari, avec le frère. On va les envoyer dehors. Et là aussi... Le travail ne manque pas. On va d'abord commencer à les retrouver dans les champs pour labourer. Ce sont souvent elle qui guide la mule, qui guide la vache ou le bœuf, c'est elle qui sont devant. Derrière, on a les messieurs avec la charrue. Les charrues de l'époque, les charrues en bois. Donc, c'était pas toujours très facile. Une fois qu'on a fait les sillons, on va les retrouver à semer. Une fois qu'on a semé et que les plantes commencent à pousser, il faut couper les mauvaises herbes. On va encore les retrouver, on va encore retrouver nos femmes à sarcler les mauvaises herbes. Puis va venir le début des récoltes. Et là encore, qui va t'en trouver dans les champs? Les femmes. Si elles récoltent du blé, eh bien, on va les trouver, les hommes vont couper le blé et les femmes derrière vont faire des andins, vont essayer de faire sécher le blé. Quand il faudra le ramasser, on fera des gerbes et ces gerbes, on les liera non pas avec de la ficelle, mais avec des herbes qu'on torsade et qu'on fait, si vous voulez, comme un lien.
C'est l'histoire, j'ai lié ma botte avec un brin de paille.
Avec un brin de paille, voilà. Donc, une fois que toutes les récoltes seront faites, on pourrait dire, ça y est, voilà nos femmes qui vont se reposer. Non, ça ne se repose pas une femme. Je vous ai dit au départ que les grands propriétaires, ils avaient des métairies, mais ils avaient aussi des grandes propriétés, en particulier des bois de pin. Des pins, quand ils sont assez grands, à cette époque-là, on en récoltait la résine. Eh bien, nos femmes, on va encore les retrouver à aller à récolter la résine. Et là, moi, je me suis souvent posé la question, la résine qui est un matériau qui colle, c'est désagréable quand on tripote ça en été. J'imaginais ces femmes avec les mains toutes collantes, dans les bois, avec les insectes, avec la chaleur. Ça ne devait pas être rose tous les jours.
Alors pour ramasser cette résine, si on regarde des anciennes cartes postales, on les voit avec des paniers en bois,
oui,
en train de collecter, on les voit verser dans des fûts,
oui,
effectivement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de gants, non, sur les mains.
Ah non, 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 elles n'ont pas de gants, elles n'ont pas de tablier en caoutchouc, elles ont uniquement leurs vêtements. Et comme vous le remarquez si bien, la récolte de résine se fait en plusieurs temps. Il y a le monsieur qui, lui, eh bien, fait ce qu'on appelle la carre. Alors la carre, il faut, on va imaginer un pin, et il faut enlever l'écorce sans abîmer le tronc. Il faut juste les rafler pour que la résine coule, pour faire un petit peu comme si elle pleuvait, s'il pleuvait. Et cette résine, elle va tomber dans un petit pot. Quand le pot est plein, eh bien, les femmes vont vider le pot, comme vous dites, dans ces bassines en bois, qu'elles vont transporter dans une barrique. Alors la barrique se trouve sur le bord du chemin pour qu'on puisse la transporter après. Donc les femmes, il faut qu'elles traversent encore des bois pour aller verser leur résine. Et là, moi je vous dis, c'est ça qui plusieurs fois m'a fait imaginer comment on pouvait ressentir. On se plaint souvent de la chaleur, et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on a très chaud? Eh bien, on quitte les vêtements. Mais je pense que là, il ne devait pas être question de quitter trop de vêtements, ou autrement, on se retrouvait, je ne sais pas comment. Donc là encore, les femmes. Ça y est, on avance dans la saison. On a rentré les foins, on a rentré les denrées, le maïs, le blé. C'est bien, oui. Mais ce n'est pas encore l'heure de se reposer. Une fois que tout ça est fait, eh bien on va retrouver les femmes encore en forêt pour aller couper des bruyères et des fougères. Alors pourquoi? Pas du tout pour faire joli, pour débarrasser, mais on allait se servir de ces herbes comme paillage pour les animaux dans les étables. Et on avance.
Ça s'appelle le soutrage. C'était voilà. Une opération qui se faisait annuellement et effectivement, il fallait nettoyer le bois, tout racler, ramener ça pour faire de la litière, effectivement.
Oui.
Ça permettait à la fois d'entretenir la forêt et par ailleurs de pouvoir avoir de la litière pour les animaux.
Oui, c'est vrai que ça avait un double emploi. Mais quand on voit qui l'exploitait, c'est vrai que là encore, c'était pas le plus grand bonheur. Et là, on va se dire, bon, ben ça y est, maintenant, elles ont fait tout ça, on va être tranquille. Non. N'oubliez pas, au début, je vous ai dit que les femmes du dedans, elles faisaient la petite lessive. C'est-à-dire qu'elles allaient faire le petit linge courant. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de machine à laver. Donc, quand on avait des grosses pièces comme les draps, les gros torchons, des choses comme ça, il fallait bien les laver. Eh bien, la grande lessive se faisait deux fois par an. Donc, une fois au printemps, une fois en automne. Et là encore, qui va-t-on retrouver pour faire les grandes lessives ? Les femmes. Alors, on va mettre le linge à tremper dans des grands baquets en bois. On va faire tremper ce linge. Ensuite, on va mettre ces gros baquets, ces gros chaudrons sur un trépied et faire chauffer dessous pour faire donc chauffer un peu cette eau. Et imaginez, quand on a des vêtements où il y a eu de la résine, je pense qu'il faut que l'eau soit quand même assez chaude pour que ça arrive à se dissoudre un peu. Une fois que le linge, que la lessive s'est faite, il faut aller rincer le linge. Alors des fois, on avait une mare à côté de chez soi ou un ruisseau, mais on n'en avait pas toujours. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait partir avec une brouette, avec le grand baquet, aller trouver un lavoir, un ruisseau et un lavoir. Et là, on va voir que quelquefois, ces messieurs, ils étaient gentils. Parce que quelquefois, le chemin était un peu long entre la maison et l'endroit où on rince le linge. Alors les hommes, eh bien, ils venaient pousser la brouette. C'était très gentil. Mais on peut se douter que s'ils faisaient ça, il y avait sûrement de la gentillesse, je ne dis pas le contraire, mais il y avait aussi un but. Ils avaient imaginé qu'une femme qui traîne une brouette quand il fait bien froid en hiver, elle arrive et la chaud, elle plonge ses mains dans de l'eau très froide, et ça pouvait occasionner des maladies pulmonaires. Alors pour éviter que la femme n'ait trop chaud en poussant sa brouette, c'était les maris qui aidaient à pousser la brouette. Et une fois qu'on avait rincé son linge, eh bien on mettait le linge à sécher sur l'herbe ou sur des petits tréteaux et on terminait ainsi la lessive.
Petite précision, oui. À l'époque on lavait avec de la cendre ou de la graisse de canard.
Tout à fait. Donc, encore une fois, il fallait effectivement que l'eau soit chaude. Alors, il y en avait aussi qui utilisaient de la soude. Mais la soude, attention, c'était très dangereux. Mais il y en a qui s'en servaient aussi. Enfin, on voit que là, c'était des bonnes machines à laver.
Bon, en même temps, on raconte qu'au temps de la bugade, de la lessive, c'était quand même des moments que les femmes attendaient parce que ça leur permettait justement d'être ensemble et de pouvoir papoter, discuter et se raconter plein de choses.
Tout à fait. Mais là, les maris n'étaient pas admis. C'était des histoires entre femmes.
Exactement.
Et non pas entre femmes et hommes. C'était entre femmes. Et là, on va arriver quand même presque à la fin de l'année où on va quand même essayer de laisser ces femmes se reposer un peu. Et là, eh bien, pas question de congé payé, pas question de faire la grasse matinée. Les femmes du dehors vont se retrouver à l'intérieur pour aider les femmes du dedans. Et même certaines iront faire quelques heures de ménage chez le grand propriétaire pour ramener là aussi encore un petit peu d'argent. Donc là, si vous voulez, on a fait en gros une année de nos femmes du dehors.
Ainsi se termine ce premier épisode sur les femmes de Métayer en Chalosse. Femmes du dedans, femmes du dehors, nous avons vu avec Colette Bataille, notre conférencière du jour, quel était leur quotidien tout au long de l'année. Dans le prochain épisode, nous nous poserons la question des loisirs, des distractions et du mariage pour ces femmes de Métayer. Voilà, c'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve au prochain épisode. À très vite.
Port d'Albret FM, des reportages, de la musique, des concerts et des infos.